Joseph Maïla, vous êtes directeur du Centre de recherche pour la paix et à ce titre, vous avez été en contact avec de nombreux conflits.
J'en ai discuté un jour avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros-Ghali, qui a été traumatisé par cette affaire du Rwanda. En 4 semaines, au mois d'avril 1994, 800 000 personnes sont mortes. Et elles sont mortes de manière atroce. Comment n'a-t-on pas pu voir venir un conflit comme celui-là? Depuis, moi, c'est la question qui me hante. Et je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la médiation préventive. C'est-à-dire, avant d'arriver à s'introduire dans les conflits pour essayer, au moment où la crise bat son plein, mais il faut le faire, hein, de toutes les manières, essayer un peu de renouer les fils, se dire, mais qu'est-ce que nous n'avons pas fait qui a pu conduire à cette situation?
Ou qu'est-ce que nous avons préparé?
Ou qu'est-ce que nous avons préparé? Ou qu'est-ce que nous avons laissé faire? Le Centre de recherche sur la paix est né de cette interrogation. Il y avait 2 guerres à l'époque, la Yougoslavie, le problème du Rwanda. Moi-même, j'ai été sensible et entendu à la question du Liban. Et je me suis dit, ce sont des conflits qu'on appelle identitaires, c'est-à-dire ethniques. C'est-à-dire où l'homme est réduit dans sa définition à ce qui ne dépend pas de lui, à son statut de naissance. Tu es Hutu, tu es Tutsi, tu es catholique, protestant, c'est très bien. Mais si on entendait protestant, catholique ou orthodoxe ou musulman, si on entendait de la foi, ce serait un moindre mal. Mais on n'entend même pas la foi, on entend la raison sociale de la croyance. La religion sert ici à classer les gens socialement. On vous demande pas si vous croyez, on vous demande qui vous êtes. Si vous répondez catholique, personne ne se pose la question de savoir si vous pratiquez ou ne pratiquez pas. Vous êtes embarqué, du fait de votre religion, dans une classification sociale qui peut vous conduire à la mort. Puisque vous savez, on tue sur les barrages, comme on dit, on vous arrête à un barrage. Si vous tombez sur le mauvais barrage, c'est terminé. Ce mécanisme, cette compréhension de ce pluralisme qui m'a toujours intrigué. Parce que pour nous, le pluralisme, au fond, c'est la condition de la paix. Comment faire de la diversité la cause de la paix? Le fondement de la paix. C'est sur cela qu'il nous faut absolument travailler. Penser la diversité avec la paix. Penser la pluralité comme une richesse et non pas comme une source d'affrontement. Je crois que c'est un défi, c'est le défi majeur qui nous attend au XXIe siècle. Et les religions ont en cela une responsabilité extrêmement grande.
Est-ce qu'on peut dire que votre fil rouge jusqu'à aujourd'hui, ça a été la béatitude « Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ».
Absolument. Je crois qu'on tient là un fil. Je crois qu'on tient le fil. Je crois que la contribution que les religions ont à la paix, c'est au fond la participation à la gérance de la création, comme nous disons dans le christianisme. Et donc nous avons une terre qui nous a été confiée, une société, une communauté d'hommes qui nous a été confiée. Comment peut-on, au nom de Dieu, mettre en danger cette humanité? En invoquant le nom de Dieu, en arriver à éliminer l'autre. Alors, ce qui m'a beaucoup interpellé dans cette étude des religions, c'est au fond cette imbrication du religieux dans le politique, cette instrumentalisation du religieux par le politique qui fait que parfois on a l'impression qu'au fond, ce ne sont pas des hommes qui se disputent politiquement, qui en viennent à déclencher des conflits, mais c'est au nom de convictions, de croyances, et souvent de croyances monothéistes. Et avec cela, en dépit de cela, on se retrouve dans des tranchées religieuses, confessionnelles, au sens de confessionnelles, qui en viennent à être de véritablement des tranchées politiques et des tranchées militaires. Je sais, nous savons, en étudiant les conflits, combien cette dimension religieuse n'est pas une dimension authentique. C'est une dimension sociale. Quand l'identité politique se perd, l'identité autre des hommes, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit linguistique, monte en quelque sorte, comme disent les juristes, et se substitue à une autorité défaillante. Faute de distinguer le Yougoslave, on finit par se différencier en bosniaque, en croate et en serbe. Alors, c'est vrai qu'on en arrive là, mais ce n'est pas une raison suffisante pour nous exempter, nous, croyants, ou exempter nos autorités religieuses, quelles qu'elles soient, d'une responsabilité plus grande. Parce qu'on n'est pas seulement responsable de ce qu'on fait, mais on est aussi responsable de ce qu'on a fait de vous, de ce qu'on a fait de la religion à laquelle vous croyez, quand elle est instrumentalisée, elle est utilisée véritablement à contre-vocation. Et là, nous avons une parole. Et il faut la dire. Alors j'ai eu le grand privilège, la grande chance de participer avec le cardinal Torrent au premier séminaire du Forum catholique musulman qui s'est tenu à Rome. Et le grand bonheur, ça a été véritablement de voir des croyants conscients, déchirés, torturés à l'idée de partager une croyance commune, un diagnostic commun sur l'évolution du monde. Et en quelque sorte être relativement désarmés vis-à-vis de cette instrumentalisation. l'utilisation, de cette utilisation, du fait que Dieu, la religion sont embarqués dans des situations conflictuelles où nous ne reconnaissons plus le Dieu d'amour auquel nous croyons. Et nous ne nous reconnaissons même plus nous-mêmes dans ce qu'on a fait de nous. Mais nous sommes responsables de ce qu'on a fait de nous.
Vous avez toujours été travaillé par cette problématique?
Écoutez, oui. Je viens d'une région qui a été travaillée par les conflits. Moi-même, j'ai beaucoup été chahuté dans l'existence. Je suis né dans un lieu, j'ai vécu dans un autre, j'ai grandi au Liban, je me suis transporté ensuite en France. La question qui est derrière tout cela, c'est au fond, pourquoi mes parents ont quitté l'Égypte, bien que libanais? Pourquoi moi-même, je suis parti du Liban? Je le sais, je suis parti du Liban, je suis allé en France pour étudier. Pourquoi je suis rentré au Liban? Parce que c'était mon pays. Et c'est toujours mon pays, bien que je sois aussi français. Et à un moment donné, je suis ressorti du Liban parce que je ne voulais pas que mes enfants grandissent dans la violence. Et je ne me sentais pas la force de résister au milieu qui les aurait malgré eux embrigadés. Et donc tout cela fait une personnalité complexe. Cette personnalité complexe, au fond, je la retrouve dans les situations de conflictualité, où on voit des hommes qui sont solidaires de leurs frères, solidaires de leur communauté, mais qui ne peuvent pas accepter en même temps des dérives qui sont imputées à leur communauté. Il est extrêmement difficile quand il y a une atmosphère de mobilisation, je l'ai constaté un peu partout, là où je vais, de résister à cette espèce de courant massif, cette voix de la conscience collective, en quelque sorte, qui s'impose à vous. Et c'est là où la religion est d'un immense secours, parce qu'elle vous permet de vous mettre en position, au fond, de penser à l'autre, de sortir de cet espace clos, précisément en pensant à la question, mais est-ce que je suis fait pour vivre pour moi-même, pour les miens, ou est-ce que je suis fait pour l'universel? Et à ce moment-là, effectivement, la parole religieuse, parce qu'elle est porteuse de transcendance et donc d'universalité, parce qu'elle s'adresse à tous, ben, elle vous oblige en quelque sorte à poser à la fois la question de l'autre, mais la poser comme responsabilité vis-à-vis de lui, donc une question éthique, et en même temps de poser la question de savoir quelle cité veut-on bâtir. Et si vous restez confiné dans l'horizon du politique, vous ne répondrez jamais à cette question-là. Ce besoin des autres pour construire la cité de demain est quelque chose de fondamental. Parce que je crois que c'est une des tâches de notre génération aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme méthode, comme prise de conscience, des dangers. Nul ne peut être innocent à partir d'aujourd'hui. Nous savons tout, nous savons, si l'on peut dire, mais nous savons tout sur les conséquences de nos inconséquences. C'est-à-dire que si nous laissons les choses se faire, nous savons que nous allons à la catastrophe. La prise de conscience des religions aujourd'hui, enfin, par les religions, de leur rôle dans le monde de demain, devient pour moi cruciale. Tout le problème, c'est de savoir qu'est-ce que nous pouvons offrir comme vision au monde d'aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Joseph Maïla, pour cette année 2009?
Alors, c'est une année qui commence avec beaucoup d'angoisse. Pourquoi? Parce que la crise économique et financière est dans tous les esprits et dans les réalités. Et donc, nous commençons l'année avec des pronostics qui nous disent que nous sommes entrés dans la récession. Mais est-ce qu'il n'y a pas là une occasion pour réfléchir sur la vraie richesse? La pauvreté dans laquelle nous nous mettons, quand nous nous mettons à jouer avec les mécanismes de la spéculation, quand nous faisons de l'argent une fin en soi, quand nous faisons de la production de la richesse une richesse en soi, alors que ce n'est qu'un moyen pour véritablement vivre mieux, aider les autres, vivre dans l'égalité, vivre dans la justice. Les situations de déni de justice qui existent dans le monde, tout cela va arriver en quelque sorte comme un véritable fardeau. Mais comment faire, c'est ça ma question, pour que ce souci de notre avenir en commun porte en quelque sorte sur les vrais enjeux de la croissance, sur le vrai sens de la richesse, sur ce que nous appelons, nous chrétiens, la destination du bien commun, la destination des biens publics, le bien commun universel. Comment faire pour que cette crise nous soit en quelque sorte profitable, si l'on peut dire, pour, au fond, mettre en face de nous les vraies réalités, les vraies valeurs, et ne plus courir après ces espèces d'idoles des temps modernes que sont le consumérisme, une sécularisation tout à fait oublieuse de Dieu, des valeurs qui, au fond, si elles ne servent pas, l'égoïsme immédiat sont bannis en quelque sorte par nos contemporains. Et plutôt que de jeter la faute sur des mécanismes aveugles, sur une culture qui nous échappe, nous poser la question de savoir ce que nous faisons. le levain dans la pâte, je crois que ça n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. Il ne s'agit pas, comme on l'entend trop souvent, de rejeter le monde dans lequel on est et de se constituer dans une espèce de logique de ressentiment, de s'enfermer dans une citadelle assiégée. Et nous savons que nous, chrétiens, nous sommes porteurs d'un témoignage. Et si aujourd'hui nous vivons, certains de nos co-religionnaires vivent des situations difficiles, c'est que certainement la force de leur témoignage doit quelquefois déranger. Et c'est pour cela que nous sommes en quelque sorte traqués parfois. Mais notre destin, c'est de témoigner. Nous avons connu la vérité, nous sommes dans la vérité, que nous vivons non pas comme une relation à une chose, non pas comme une relation à une idée, mais nous la vivons comme une relation à une personne qui nous fait vivre de sa vie, qui est une vie divine. C'est cette relation-là qu'il faut faire fructifier pour que les hommes voient et que les hommes croient.